8h, le journal de Christelle Robière. Bonjour Christelle.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, une proposition pour sortir de l'impasse. Le gouvernement est prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe, explique cette nuit le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Pas de tabou, dit-il, alors qu'il ne s'est pas encore rendu sur l'île. Les autres titres, Christelle.
Il s'appelle Omicron. Le nouveau variant est qualifié de préoccupant par l'OMS, surtout parce qu'il est inconnu. Les virologues, eux, se montrent plutôt rassurants. L'Afrique du Sud, où il est apparu, s'inquiète fortement pour la santé de ses habitants, mais aussi pour le tourisme. On est là-bas en pleine saison haute. Dans ce journal aussi, dernière ligne droite pour les 5 candidats républicains à quelques jours du vote des militants. Une seule règle, on ne critique pas ses adversaires. La disparition d'une légende de la comédie musicale aux États-Unis, Stephen Sondheim, le parolier de West Side Story, avait 91 ans. Enfin, le journal des sports de Laetitia Bernard avec des bleus très en forme. 6 buteuses hier soir contre le Kazakhstan qui inspire décidément nos équipes féminines et masculines.
Le grand entretien à partir de 8h20 avec 2 invités pour comprendre ce qui se passe dans la Manche. 27 morts cette semaine dans le naufrage d'une embarcation de migrants et cette crise ouverte entre Paris et Londres. Nous serons avec François Gémen, spécialiste des migrations à Sciences Po et à l'Université de Liège, et avec Dominique Grive, ancien ministre et ancien député britannique.
France Inter.
En Guadeloupe, les syndicats n'en parlaient même pas. Et pourtant, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a bien prononcé le mot « autonomie ». Le département est en proie au barrage et à la contestation depuis 2 semaines sur le Covid, le pouvoir d'achat, le chômage. Pour tenter d'apaiser les tensions, le ministre, qui ne s'est pas encore rendu sur place, a donc pris la parole hier soir. Il a annoncé la création de 1000 emplois aidés pour les jeunes durement frappés par le chômage. Mais surtout, il a affirmé que le gouvernement était prêt à parler de l'autonomie de l'île. Yann Gallic.
Françaises, Français, mes chers compatriotes de Guadeloupe.
Dans cette allocution télévisée de 16 minutes, Sébastien Lecornu est revenu sur les raisons de la colère qui agite la Guadeloupe.
Nous affrontons 3 crises.
L'obligation vaccinale pour les soignants, la vie chère, le chômage, les coupures d'eau ou encore le scandale du chlordécone. Le ministre des Outre-mer affirme n'avoir aucun tabou, mais il surprend en évoquant l'autonomie de la Guadeloupe, car ce sujet n'apparaît pas dans les nombreuses revendications des syndicats qui ont lancé le mouvement de contestation.
Certains élus ont posé la question, en creux, de l'autonomie par rapport à son statut actuel de département ou région d'outre-mer. D'après eux, la Guadeloupe pourrait mieux se gérer d'elle-même. Ils souhaitent moins d'égalité avec l'Hexagone, plus de liberté de décision par les décideurs locaux. Le gouvernement est prêt à en parler. Il n'y a pas de mauvais débat, du moment que ces débats servent à résoudre les vrais problèmes du quotidien des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens.
Sébastien Lecornu, qui s'est entretenu avec les élus locaux, lance donc un pavé dans la mare, expliquant que l'État ne peut pas résoudre seul tous les problèmes actuels. Le ministre promet néanmoins un plan d'action et des mesures concrètes, avec notamment la création 1 millier d'emplois aidés pour les jeunes Guadeloupéens.
Sébastien Lecornu se rendra prochainement dans le département en attendant le couvre-feu est prolongé jusqu'à lundi matin en Guadeloupe.
Il n'aura fallu que quelques heures pour que le monde entier se claquemure face à l'apparition d'un nouveau variant.
Baptisé Omicron par l'OMS qui donne systématiquement le nom d'une lettre de l'alphabet grec. Il est jugé préoccupant, déjà repéré dans 5 pays dont la Belgique. Alors est-il plus contagieux? Risque-t-il de résister au vaccin? Quelle est sa capacité réelle à s'imposer? Pas de panique, vous disent les virologues que vous avez rencontrés, Véronique Julia, mais quand même prudence et surveillance.
Dans son bureau de l'Institut Pasteur, le virologue Étienne Simon Laurière se félicite de la réactivité de ses confrères d'Afrique du Sud et du Botswana. Grâce à eux, il dispose de la carte d'identité du variant et il confirme qu'il y a beaucoup de mutations, une 30aine en particulier sur la protéine Spike qui permet au virus de se fixer à nos cellules, ce qui peut le rendre plus transmissible et plus résistant au vaccin, mais rien n'est sûr.
Pour qu'il rentre dans nos cellules plus ou moins bien, il faut que toutes les mutations marchent bien ensemble. Et là, aujourd'hui, on ne peut pas encore dire avec vraiment certitude que ces mutations ne vont pas se gêner les unes les autres. Il y a eu d'autres variants qui ont émergé de la même façon et qui n'ont pas donné des choses aussi importantes que le Delta, par exemple.
Apparemment, le variant progresse très vite en Afrique australe. Va-t-il prendre le pas sur le Delta? Impossible de le dire à ce stade. Il faut se donner un peu de temps pour observer sa dynamique. En revanche, il n'y a pas de raison de penser qu'il donnera des formes plus sévères.
Pour l'instant, on n'a pas vu de variant. On va tester avec celui-ci, mais ça serait extrêmement surprenant, qui amène à des formes plus sévères. Il est beaucoup trop tôt pour savoir ça, mais ce n'est pas un scénario qui paraît très probable.
On ne s'attend pas non plus, explique Étienne Simon-Laurière, à ce que ce variant échappe totalement au vaccin. Comme avec le Delta, il y aura peut-être plus d'infections, mais le vaccin devrait rester efficace contre les formes graves. D'autres virologues plaident pourtant déjà pour des rappels adaptés à ce nouveau virus.
L'Europe, le Canada, les États-Unis, le Brésil ont décidé de fermer leurs frontières aux voyageurs venus d'Afrique australe et en particulier d'Afrique du Sud, qui dénoncent des mesures d'isolement injustifiées. Et ça tombe particulièrement mal en pleine saison touristique à Johannesburg. Romain Chanson.
Des randonnées et des safaris d'exception en Afrique australe, c'est ce que propose Gilles Le Goff. Ce breton installé à Johannesburg redoute une baisse d'activité sans précédent.
Je suis sous le choc car j'ai déjà des annulations qui m'ont été annoncées. J'avais reçu là ces dernières semaines plein de demandes pour l'année à venir, donc on va voir.
Avant le Covid, 1,5 million de personnes dépendaient du tourisme en Afrique du Sud. À Soweto, Nkululeko Chelembe emploie 4 guides qui font visiter le Township, une petite entreprise qui commençait tout juste à se relancer.
Le pays était en train de s'ouvrir un petit peu, mais avec les autres pays qui ferment leurs portes, ça va avoir un impact négatif.
La rapidité avec laquelle les pays étrangers ont fermé leurs frontières, Royaume-Uni en tête, indigne Chifiwachi Vengwa, il dirige le Conseil sud-africain de l'industrie touristique.
C'est injuste et c'est inconscient de la part de pays étrangers de fermer leurs frontières avec l'Afrique du Sud sur la base d'une découverte que l'on partage avec le monde.
Plus qu'un pays, c'est toute une région qui subit des restrictions de voyage. L'Union européenne recommande à ses 27 membres la fermeture de ses frontières avec 7 pays d'Afrique australe. À Johannesburg, Romain Chanson pour France Inter.
Et là-bas, en Afrique du Sud, le tourisme représente 8% du PIB. Top départ pour la troisième dose, la vaccination est ouverte dès aujourd'hui dans notre pays à tous ceux qui ont plus de 18 ans et qui ont reçu leur deuxième dose il y a au moins 5 mois. Ils recevront un vaccin ARN messager et ce, quels que soient les vaccins utilisés auparavant.
L'apparition de ce nouveau variant chahute les places financières mondiales, moins 4,75% pour la Bourse de Paris hier, et certains secteurs économiques vont encore souffrir.
Et oui, en parallèle, les pénuries ne se résorbent pas. On s'inquiète de nouveau pour nos cadeaux de Noël. Un exemple, la console de jeu PlayStation 5, à cause de la crise des semi-conducteurs, elle est en rupture de stock depuis des mois. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
Même pour le Père Noël, c'est mission impossible.
Et autant dire que cette pénurie mondiale de semi-conducteurs va gâcher le Noël de nombreux fans de la console de jeu, malgré les 13 400 000 consoles fabriquées depuis novembre dernier pour le monde entier. Les usines de Sony tournent désormais au ralenti. Résultat, 1 500 000 PS5 manquent à l'appel. Et c'est peu dire que c'est aujourd'hui la foire d'empoigne.
On a pourtant vu, Laurent, des ventes flash avec l'apparition de PS5 pendant ce Black Friday, mais pas assez pour contenter tout le monde. La rupture de stock va-t-elle s'estomper après Noël ?
Alors, les quelques PlayStation vendus pendant ce Black Friday ne sont que des coups marketing pour augmenter la visibilité des sites qui les mettent en avant. Il n'y a aujourd'hui plus aucun volume disponible chez les grossistes. Les sites de vente d'occasion, en revanche, affichent des prix pharaoniques jusqu'à 1000 euros pour une PS5, alors qu'au départ, Sony avait ciblé 16 millions d'unités. La firme japonaise a réduit donc ses perspectives de production, y compris pour l'année prochaine. Car mauvaise nouvelle, à court terme et à moyen terme, cette pénurie mondiale de semi-conducteurs n'est pas prête de se résorber avant plusieurs mois.
Merci Laurent. Le marathon tourne au sprint final. On parle de politique. Dans une semaine, les Républicains auront désigné leurs candidats grâce au vote des adhérents. Les 5 multiplient les déplacements et les réunions entre 2 débats télé. Le dernier aura d'ailleurs lieu sur France Télévisions et France Inter mardi soir. Xavier Bertrand était hier en meeting à Nice et il a joué une fois de plus les rassembleurs, Anne Souhaitemont.
Après une cinquantaine de réunions devant plus de 10 000 militants, Xavier Bertrand entame le sprint final de sa campagne marathon avec un message.
On ne veut pas gagner autrement qu'en équipe.
Longtemps accusé de la jouer solo, celui qui a fini par se ranger aux règles de la compétition interne se pose aujourd'hui en rassembleur. S'il a son programme organisé autour de 3 piliers, autorité, travail, territoire, Xavier Bertrand insiste, il y a du bon chez tous les candidats.
La semaine dernière, dans le débat, on a demandé aux différents candidats qu'est-ce que vous prendriez dans les projets des autres. Et moi, j'ai dit ce que vous répondez tout de suite parce que j'ai déjà réfléchi. Et j'ai dit notamment chez Valérie Pécresse d'intégrer sa réserve éducative. Je trouve ça intéressant.
Un message d'unité.
Il y a des différences de personnalité, il y a des différences sur les projets. Enfin, ce qui nous rapproche est quand même beaucoup plus important que ce qui peut effectivement nous éloigner.
Qui fait mouche auprès de la plupart des militants, dont Michel, Jean-Pierre et René.
Très percutant, très vainqueur en fait.
Parfait.
C'est notre futur président.
Il est rassembleur et c'est le meilleur des cinq. Voilà, c'est important.
Gilles était lui venu pour voir. Il repart conquis à sa plus grande surprise.
Enfin, j'ai un discours qui n'est pas un discours politique, mais un discours que chaque Française peut assimiler. Et donc, effectivement, il m'a redonné le goût à la politique que j'avais perdu.
Dernier rendez-vous avec les militants pour Xavier Bertrand lundi à Rieux-la-Pape avant l'ultime débat télévisé mardi soir.
Oui, débat télévisé. Le congrès démarre le 1er décembre avec le premier tour de vote des adhérents. Il a reconnu une relation ambiguë avec une femme, mais pas une double vie. L'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, a remis sa démission au pape François pour éviter, dit-il, la division. Il avait inventé l'histoire des Sharks et des Jets. Souvenez-vous, ces deux gangs qui s'écharpaient en musique dans West Side Story et revisitaient, dépoussiéraient Roméo et Juliette. Steven Sondheim vient de mourir à l'âge de 91 ans. Le parolier de la comédie musicale était une véritable légende outre-Atlantique et s'était fait une place de choix à Broadway, à New York, Loïc Loury.
C'est à 27 ans à peine que Steven Sondheim était entré dans la légende. Deux ans plus tôt, le compositeur avait été engagé pour écrire les paroles de son tout premier spectacle sur Broadway, West Side Story. Sweeney Todd, Gypsy, Sunday in the Park with George, près d'une vingtaine de comédies musicales, dont certaines des plus populaires de l'histoire. Passionné dès le plus jeune âge, Steven Sondheim évoquait régulièrement son travail comme ici sur PBS en 2010. S'il y a trop de choses dans les paroles, l'oreille ne peut pas tout absorber, comme un gâteau trop riche. Mais si le texte est trop pauvre, c'est ennuyeux. Écrire pour un spectacle, c'est jongler en permanence. Jamais rassasié, malgré 8 Grammy Awards, autant de Tony Awards et un Oscar, il expliquait en septembre plancher sur une nouvelle pièce. Et loin de considérer son œuvre comme figée, il félicitait très récemment Steven Spielberg pour son adaptation, attendue le mois prochain de West Side Story. New York, Loïc Loury, France Inter. Isn't it
bliss? Ce qui nous amène à 8h12, en musique, à l'actualité sportive.
Bonjour Laetitia.
Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
Quel enthousiasme ce matin.
Bah voyez,
Bien sûr, en
duo et en stéréo. L'équipe de France féminine de football est toujours très en forme.
Et toujours en tête de son groupe pour les qualifications en vue du Mondial 2023 après sa nette victoire hier soir. Et quand je dis nette victoire, oui, les joueuses de Corinne Diacre n'ont pas fait dans le détail puisqu'elles ont écrasé le Kazakhstan 6-0. Et à propos de Mondial, mais côté masculin, l'un des deux derniers vainqueurs de l'Euro n'ira pas au Qatar l'an prochain. L'Italie et le Portugal se retrouvent en effet dans le même groupe pour les barrages de qualification. Ainsi, on a décidé le tirage au sort. Seul le vainqueur de chaque groupe peut décrocher un des derniers billets disponibles pour la Coupe du Monde.
Après trois semaines internationales et les belles victoires du 15 de France, c'est le retour en championnat pour le rugby tricolore.
11e journée de top 14 et nous allons vous parler d'un joueur qui sera particulièrement célébré cet après-midi à Montpellier. Il s'agit du capitaine et troisième ligne Fulgence Ouédraogo. Face à Castres, il va disputer à 35 ans son 332e match sous les couleurs de Montpellier. C'est beaucoup, c'est même un record pour le club. L'ancien international fait partie des joueurs qui n'ont jamais changé, des rares joueurs qui n'ont jamais changé d'équipe dans leur carrière. Aucun regret, dit-il, au contraire même.
C'est une fierté, j'y prêtais pas plus attention que ça. Premier à jouer les finales, premier à jouer la H-Cup. Les petites victoires comme ça, à chaque fois c'était des grands événements parce qu'on était les premiers à le faire. Et ça, j'aurais pas pu l'avoir ailleurs. Ça a été vraiment de moments forts, même s'il n'y a pas eu de titre majeur encore à la clé. Encore. Franchement, c'était... des belles émotions et c'est une chance, je pense.
Montpellier-Castres, c'est à 15h. Et on enchaîne avec le supercross de moto, bah Christelle.
Bah oui, bah j'étais perdue alors.
Et retour donc pour le plus grand bonheur des super fans de moto, des passionnés de moto aujourd'hui. Le supercross qui avait été annulé l'an dernier à cause du Covid et alors que cette année la situation sanitaire se tend à nouveau, et bien l'événement, il aura bien lieu cet après-midi à la Défense Arena. Une course sur une piste de terre avec des bosses, des virages serrés et 18 000 spectateurs. Xavier Audouard, le directeur sportif de l'événement.
Il y a cette partie du public qui est passionnée, qui connaît la course, qui connaît les acteurs, etc. Et puis, il y a le côté parisien. Il y a une notion de spectacle, de fête dans la capitale. C'est la province qui déboule à Paris, puis c'est d'un milieu parisien aussi qui vient à ce spectacle dont il a entendu parler de bouche à oreille des fois, ou qu'il a vu une fois à Bercy, puis il revient voir ici à l'Arena comment c'est. Si on n'avait pas le grand public avec simplement les passionnés, c'est une épreuve qui pourrait pas vivre comme ça. Et si on avait que le grand public, il n'y en a pas assez de passionnés par ça pour que l'événement prenne cette dimension et la conserve.
Début des épreuves à 14h. Une question super difficile maintenant, Jérôme Christelle, si je vous dis tir et ski de fond.
Biathlon.
Bravo. Bravo, reprise de la Coupe du Monde de biathlon aujourd'hui. Un rendez-vous très important, bravo. Ouais, bravo. À quelques mois des Jeux Olympiques de Pékin. Bon, et puis un bon anniversaire aussi à Aimé Jacquet.
Ah oui,
80 ans aujourd'hui, hein, l'homme de la victoire en Coupe du Monde en 98, première étoile sur le maillot des Bleus. Il aime à dire que le sport, c'est l'école de la vie.
Et oui, c'est aussi et surtout grâce à lui. Bon anniversaire à Aimé Jacquet. Merci Laetitia Bernard pour ce journal des sports. Le temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et il ne fait pas chaud à Saïssou-Couzan, d'où est originaire Aimé Jacquet. C'est un temps d'hiver, Jean-Michel Golinski.
Dans des températures matinales, souvent proches de 0 à 2 degrés, du nord de la Seine au centre et de l'Auvergne région de l'Est, la dépression qui circule du sud de l'Angleterre en direction du centre du pays va donner pas mal de vent, souvent de secteur nord, vers 100 km à l'heure de la Bretagne à la Basse-Normandie, 80 sur la façade atlantique, dans le golfe du Lion et sur la Corse, 60 dans l'intérieur, avec de la pluie ce matin, accompagnée de neige à basse altitude sur les massifs, entre les Pyrénées, le Massif central et des Vosges aux Alpes. À l'arrière, des averses se développent rapidement, intéressant une large moitié nord du pays en matinée, puis englobant l'ensemble des régions en journée, avec des averses de pluie, de neige jusqu'en plaine, de grésil et parfois de l'orage. Bref, un temps hivernal avant l'heure. Seul le golfe du Lion et l'ouest de la Provence vont conserver une ambiance plus douce et relativement dégagée.
Jean-Michel Golinski, Météo France.